Bien, après cette période de vacances et de voyage, nous nous retrouvons pour continuer notre étude dans le livre de l'Apocalypse. Et je vous invite à ouvrir la Bible, donc au chapitre 20 de l'Apocalypse. Et nous allons ce matin lire les trois premiers versets. Apocalypse 20, le verset 1. À trois. Et voici la parole de Dieu. C'est Jean qui écrit. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je suis sûr que vous savez que ce passage est un passage qui est très disputé. Et il y a un grand nombre de points de vue au sujet des 1000 ans, au sujet du millénium, que l'on retrouve dans ce passage, dans les versets 1 à 9. Mais il y a essentiellement trois interprétations du millénium. Il y a le point de vue prémillénariste qui affirme que Christ revient avant le millénium. Premier mot sur la feuille. Et ce point de vue millénariste, on va le diviser en deux camps, essentiellement. Il y a le point de vue prémillénariste historique, qui affirme que, après le retour du Seigneur Jésus-Christ, ce sont les chrétiens ressuscités qui régneront, qui marcheront et qui vivront sur la terre pendant cette période de bénédiction terrestre qui va durer 1000 ans. Et puis vous avez le point de vue qui est sans doute le plus répandu aujourd'hui, qui est le point de vue prémillénariste, dispensationaliste. Et ce point de vue affirme qu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, l'Église est enlevée au ciel et que c'est une nation juive renaissante qui régnera sur la terre avec un Messie de la lignée de David. Mais voilà, le point de vue prémillénariste affirme que Christ revient avant les 1000 ans. Alors si on a prémillénariste, on a aussi un point de vue post-millénariste. Et ce point de vue post-millénariste affirme que Christ revient après les 1000 ans. Et le point de vue post-millénariste classique d'aujourd'hui voit ce millénium comme une période vers la fin de l'ère de l'Évangile où l'Église va vaincre toutes les religions de ce monde. Elle va chasser toute fausse religion, elle va chasser toute opposition qui se trouve dans le monde. Et ensuite viendra le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, post-millénariste, Christ revient après le millénium. Et puis, il y a un troisième point de vue qui est le point de vue amillénariste. Et le terme veut tout simplement dire « pas de millénium ». Et en fait, ce point de vue affirme que ce que les 1000 ans de notre passage décrivent, c'est une description en fait symbolique de toute l'histoire de l'Église. Le millénium est un symbole, troisième mot sur la feuille. J'ai oublié de dire le deuxième, c'est après. Troisième mot, donc, le millénium est un symbole. Donc, pour résumer, prémillénariste, Christ revient avant le millénium, post-millénariste, Christ revient après le millénium, et amillénariste, ce millénium est l'histoire de l'Église. Nous allons couvrir ce passage, et ce chapitre, pardon, Dieu voulant, en quatre messages. Tout d'abord, ce matin, nous allons voir Satan lié pour 1000 ans. Ensuite, les versets 4 à 6, le règne des chrétiens avec Christ pendant le millénium. Ensuite, les versets 7 à 9, la grande bataille contre Gog et Magog. Et ensuite, les versets 10 à 15, le jugement depuis le grand trône blanc. Mais avant de pouvoir avancer dans notre étude, nous devons définir, être au clair de ce que c'est que le millénium. Quand est-ce que cela se passe? Quelle est sa nature? Et l'expression « mille ans » n'est trouvée dans la Bible qu'ici, au chapitre 20 d'Apocalypse, et à 6 reprises dans les versets 1 à 9. Et puisque le point de vue prémillénariste est le plus populaire aujourd'hui, on va commencer avec ce point de vue. Donc, premier point, le point de vue prémillénariste. Apocalypse 20, comme nous venons de lire, commence avec l'apôtre Jean qui voit un ange descendre du ciel, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Et le point de vue prémillénariste affirme donc que Satan est lié pour 1000 ans après le retour du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus revient avant le millénium et donc Satan est lié après. Il y a trois arguments que les prémillénaristes utilisent dans notre texte. Il y en a d'autres un peu plus loin dans le chapitre. Tout d'abord, ils disent que la relation entre le chapitre 19 et 20 est une relation chronologique. Donc, ce qui est décrit dans le chapitre 20 suit ce qui est décrit dans le chapitre 19. Ça, c'est le premier argument. On va les développer. Donc d'abord, il parle de l'argument chronologique. Ensuite, il souligne que le nombre 1000 est à prendre au sens littéral. C'est 1000. Et le troisième argument concerne la nature de l'enchaînement de Satan pendant 1000 ans. On va développer ces arguments. Le premier argument donc utilisé par les prémillénaristes, c'est de dire que les chapitres 17 à 20 du livre de l'Apocalypse sont organisés de manière chronologique, quatrième mot sur la feuille. Les chapitres 17 et 18 montrent le jugement, la destruction de la grande prostituée Babylone. Après, nous avons le chapitre 19, la destruction, le jugement de la bête et du faux prophète, et le retour du Christ, fin du chapitre 19. Et donc ensuite, nous avons le chapitre 20. Et comme le retour du Seigneur Jésus-Christ est décrit à la fin du chapitre 19, donc les points de vue, les prémillénaristes disent que le millénium dont il est question au début du chapitre 20 doit forcément suivre le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est une lecture chronologique des chapitres. Le deuxième argument que beaucoup de prémillénaristes avancent, pas tous, il faut le reconnaître, mais beaucoup, c'est que donc le nombre 1000 doit être interprété littéralement, cinquième mot sur la feuille. Ils disent que c'est la façon normale de lire la Bible. Et puisque l'ère de l'Église est bien plus grande que 1000 ans, elle a dépassé 1000 ans, donc pour eux, ces 1000 ans ne peuvent pas décrire l'ère de l'Église, mais une durée de 1000 ans qui va venir après le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et le troisième argument des prémillénaristes, c'est peut-être le plus important, il concerne les termes qui sont utilisés au verset 2. Il le lia pour 1000 ans. Et les prémillénaristes disent que cela implique une fin totale, sixième mot sur la feuille, une fin totale des activités de Satan dans ce monde. Il ne peut rien faire, il est lié, il est enchaîné. Certains vont même dire que Satan est chassé physiquement de ce monde pendant cette période de 1000 ans. Et ils disent que, visiblement, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Ils disent que même le Nouveau Testament affirme que Satan est à l'œuvre, qu'il faut lui résister. Et donc, ce passage décrit une période future. ou une période où Satan n'aura aucun pouvoir après le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, sur la base de ces trois arguments, la chronologie des chapitres 19 et 20, la compréhension littérale du nombre 1000 et l'enchaînement absolu de Satan, les prémillénaristes attendent un âge d'or sur terre après le retour du Seigneur Jésus-Christ. Les commentateurs résument cela en disant « Les croyants qui auront reçu leur nouveau corps ressuscité sans péché et parfait retourneront avec Christ pour régner avec lui sur la terre. » À cause du règne du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, pendant cette période, une grande partie de la malédiction du péché, l'injustice, la violence, la maladie, les douleurs, la mort, sera supprimée. Ce sera paix sur la terre. Voilà le résumé, en résumé, le point de vue pré-millénariste. Mais la critique la plus forte de ce point de vue est faite par les amillénaristes. Et donc c'est notre deuxième point. La critique amillénariste. Les amillénaristes affirment que l'expression « mille ans » que l'on trouve dans ce passage est une description symbolique de toute l'ère de l'Église. Et on va reprendre les arguments, les trois arguments des prémillénaristes et répondre à cela. Tout d'abord, l'argument de la relation entre les chapitres 19 et 20. Les amillénaristes diront que le chapitre 20 ne suit pas chronologiquement les événements décrits au chapitre 19. En fait, le chapitre 20 est une récapitulation, c'est un mot sur la feuille. C'est une récapitulation avec un autre point de vue. Mais il décrit la même période de l'histoire qui est décrite dans les chapitres 17 à 19, à savoir toute l'ère de l'Église. Même si l'accent est mis ici sur les choses de la fin. Les chapitres 17 à 19 montrent le jugement et la défaite des grands ennemis du Seigneur Jésus-Christ. On les a déjà rencontrés avant, on les a rencontrés au chapitre 12 et 14. Le dragon, la bête de la mer, la bête qui sort de la terre, la grande prostituée Babylone. Voilà les ennemis de Christ qui œuvrent dans les coulisses de l'histoire. On les a vus arriver un à un et on les voit repartir, être jugés les uns après les autres. Chapitre 17, 18, la grande prostituée. Chapitre 19, la bête, le faux prophète. Chapitre 20, le grand dragon, Satan. Et avec cette approche, quand on arrive au chapitre 20, on a déjà vu la destruction de la grande Babylone. On a déjà vu la destruction de la bête, du faux prophète. Maintenant, c'est la destruction du diable. C'est une organisation qui est thématique. Il y a 8e mot sur la feuille. Ou topique. Ce n'est pas une organisation chronologique, c'est une organisation thématique. On se focalise d'abord sur la destruction du faux prophète, de la bête, du faux prophète, de Babylone, de diable et de Satan. Quel point de vue est le vrai? Est-ce que le texte nous permet de voir s'il s'agit d'une progression chronologique ou d'une récapitulation thématique? Et la réponse est oui. Et on peut voir qu'il s'agit d'une récapitulation. Par exemple, au chapitre 19, on voit les nations être frappées par l'épée du Seigneur Jésus-Christ, au verset 15. Elles sont soumises à la cuve de vin de l'ardente colère de Dieu. C'est une description de la fin des peuples. Dans leur rébellion contre le Seigneur Jésus-Christ, lorsque le Seigneur revient pour les juger. Mais au chapitre 20, on voit ces mêmes nations. Verset 3, Satan sera lié afin qu'il ne séduise plus les nations. Et au verset 8, Satan sera relâché pour séduire les nations afin de les rassembler pour la guerre. Si le chapitre 19 parle des nations étant détruites par le Seigneur Jésus-Christ, et si le chapitre 20 suivait, chronologiquement, comme les prémillénaristes disent, le chapitre 19, alors les nations ne seraient plus présentes, puisqu'elles auraient été détruites au chapitre 19. chapitre 20, en parlant des mêmes nations, est donc une récapitulation de l'histoire, de la même histoire. Et on voit cela, par exemple, dans la dernière bataille, qu'on retrouve dans les deux chapitres, chapitre 19 et chapitre 20. On étudiera un peu plus loin, donc les versets 7 à 10, la dernière bataille, Satan séduira les nations qui vont arriver des quatre coins de la terre pour la guerre. Et c'est la même guerre que l'on a décrite au chapitre 19, versets 17 à 21, où les nations étaient rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. C'est la même bataille. C'est intéressant à noter que dans les deux descriptions, Jean, que ce soit au chapitre 19 ou au chapitre 20, Jean s'appuie sur un seul passage qui est en Ézéchiel 38 et 39. Passage dans lequel le prophète annonce la bataille contre Gog et Magog. On verra cela plus tard. Et Jean parle ici dans ce passage de Gog et Magog. Et dans ce même passage, Ézéchiel parle d'oiseaux de proie. Ézéchiel 39, verset 4, « Aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. » Cela nous renvoie au chapitre 19, verset 17. « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. » Jean cite ce passage d'Ézéchiel à la fois pour la bataille décrite au chapitre 19, et pour la bataille décrite au chapitre 20, c'est la même bataille. C'est la dernière bataille. C'est celle qui sera à la fin de l'histoire. La bataille qu'on a déjà vue au chapitre 16, la bataille d'Armageddon. Ce n'est donc pas une nouvelle histoire d'événements qui se passe après le chapitre 19. Non, c'est une récapitulation thématique des mêmes événements avec une nouvelle perspective. Le lien donc entre chapitre 19 et chapitre 20, ce n'est pas un lien chronologique, c'est un lien thématique. On prend différents thèmes et on les regarde. Deuxième argument, l'argument d'interprétation des 1000 ans. Est-ce que c'est littéral ou est-ce que c'est symbolique? Et beaucoup aujourd'hui vont dire, c'est écrit 1000, donc ça veut dire 1000. Mais arrivé à ce point dans notre étude du livre de l'Apocalypse, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a appris dans notre étude de ce livre? Et pour résumer, on va dire que si l'on n'a pas de raison suffisamment évidente pour interpréter ces visions de manière littérale, nous devons les prendre de manière symbolique. Dixième mot sur la feuille. C'est la nature de la littérature apocalyptique. C'est symbolique. Cette littérature fonctionne ainsi. Et ce passage fonctionne ainsi. C'est symbolique. Satan, par exemple, est décrit comme un dragon. Personne ne va croire qu'il ressemble à une créature comme Godzilla. Non, c'est un symbole de sa méchanceté, un symbole de sa puissance, de sa soif de sang. Nous avons lu dans le début de ce chapitre que l'ange descend du ciel avec une chaîne. Oui, mais Satan est un archange, un être spirituel. Comment est-ce qu'il peut être lié physiquement si c'est un être spirituel? C'est la même chose avec les nombres, on l'a déjà souligné. C'est la réalité que tout cela est symbolique. 7, 6, 10, 144 000, 12, ici, 1000. Et on peut comprendre ce qui est symbolisé ici. Le millénium, les 1000 ans, est une période qui est longue, mais une période qui est définie. 11e mot sur la feuille. Il y a un début et il y a une fin. C'est aussi, par ailleurs, le cube parfait, 10 par 10 par 10. C'est intéressant de noter que le lieu très saint était 10 par 10 par 10. Qui décrit quelque chose qui est complet, terminé, fini. Les 1000, donc, est une image d'une période qui est complète, qui est terminée. Et c'est une belle image, un parfait symbole de l'ère de l'Évangile, une longue période, oui, durant laquelle l'Évangile est annoncé, l'œuvre du salut est accomplie. Et c'est un symbole. 1000 ans restent un symbole. Troisième argument avancé par les primillénaristes, l'interprétation de l'enchaînement de Satan. Sans doute, comme j'ai dit, l'argument le plus important. Comment comprendre le fait que Satan soit lié, 12e mot sur la feuille. Et il est intéressant de noter à ce sujet, sur ce point, que les prémillénaristes et les postmillénaristes sont d'accord. Les deux vont dire que ce passage exige une œuvre qui va complètement limiter les actions de Satan. Et les deux, les prémillénaristes et les postmillénaristes, vont affirmer que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, que Satan n'est pas limité, alors que le passage parle de Satan comme étant complètement lié, enfermé. Les postmillénaristes vont dire qu'il s'agit d'un âge doré qui reste à venir, où l'Église va chasser toutes les religions, toute l'opposition à l'Évangile. Les prémillénaristes vont dire qu'il s'agit d'une ère après le retour du Seigneur Jésus-Christ. Quelle est la réponse des amillénaristes ? Cette image de Satan qui est lié est une manière très fidèle et très biblique pour décrire les effets de la première venue du Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Les effets, 13e mot sur la feuille. Cela décrit les effets de la première venue du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et la situation de l'Église aujourd'hui, annonçant l'Évangile dans cette période dans laquelle nous vivons. Il y a une chose que beaucoup de personnes ne réalisent pas, c'est la grandeur de la révolution dans l'histoire du salut quand le Fils de Dieu s'est fait homme, qu'il est venu sur la terre pour vivre pour une vie parfaite en accomplissant la loi, qu'il est mort, qu'il a donné sa vie sur la croix en rançon, qu'il est mort d'une mort expiatoire pour les péchés, qu'il a vaincu la mort par sa résurrection, qu'il est monté au ciel pour être assis à la droite de Dieu sur un trône d'autorité. La grande révolution, et parfois on perd de vue cette réalité, et beaucoup ne réalisent pas que cela a été une révolution. Avant cela, toutes les nations étaient liées par Satan. Il contrôlait les nations de ce monde. En Genèse, par exemple, Dieu appelle Abraham hors d'Ur de Chaldée. De lui va naître Israël, petite nation. Petite nation qui bénéficiait de la protection de Dieu jusqu'à la venue du Messie. Et tout le reste du monde était sous la puissance de Satan. Tout le monde était dans l'obscurité, 14e sur la feuille. Et la lumière ne scintillait qu'en Israël. Tout le reste était couvert de ténèbres. Personne en dehors d'Israël n'avait jamais entendu parler de salut. Il n'y avait que ténèbres, il n'y avait que dépravation. Parfois même en Israël, et Dieu intervenait, Dieu jugeait, Dieu punissait son peuple. Ce peuple qu'il avait mis à part. Les apôtres ont parlé de cette manière. Paul, dans un sermon en Actes 14, verset 16, dit ceci, « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. » Mais lorsque l'apôtre Jean parle de la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le chapitre 1er de l'Évangile, de son Évangile au verset 9, il dit « Cette lumière qui était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire toute âme. » La lumière qu'a le Seigneur Jésus-Christ est venue briller dans les ténèbres. Et les nations ne sont plus entièrement sous la domination, sous le contrôle, sous les ténèbres de l'adversaire. Dieu va appeler ses brebis du milieu de toutes les nations. Et c'est ce qui est étonnant, l'Évangile est parti de ce petit groupe de disciples en Israël. Et il s'est répandu dans le monde entier. C'est l'expansion de l'Église pendant ces mille ans, pendant ce millénium. Le commentateur Hendrickson écrit ceci. Durant toute l'ère de l'Évangile, l'influence du diable sur la terre est limitée. Il n'a plus le pouvoir d'empêcher l'extension de l'Église dans le monde, qui se fait grâce au travail missionnaire. Pendant toute cette période, Satan ne parvient pas à amener les nations, c'est-à-dire le monde en général, à détruire l'Église qui se renouvelle et se développe constamment dans un puissant mouvement missionnaire. Par la prédication de la parole et l'œuvre du Saint-Esprit, les élus de toutes les régions de la terre sont conduits des ténèbres à la lumière. Au temps de l'Ancien Testament, Satan avait une autorité sur presque sans limite. Maintenant, il est obligé de regarder les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ avancer sur ce qui était son territoire, en proclamant l'Évangile, le 15e mot sur la feuille. Il est lié. Bien entendu, certaines personnes vont dire qu'il est difficile de voir cette description de Satan étant lié comme décrivant l'ère de l'Évangile. Mais on peut répondre de deux manières à cela. La première réponse se voit dans notre texte. Et on voit au verset 3 quel est l'effet exact de l'enchaînement de Satan. Verset 3. « Afin qu'il ne séduise plus les nations. » Cette vision ne dit pas que Satan est lié, qu'il ne peut plus agir. Il ne dit pas qu'il est dans un cachot quelque part et qu'il est impossible, qu'il ne peut plus bouger. Non, le texte nous dit que Satan est lié dans le sens qu'il n'est plus capable de séduire les nations, qu'il ne peut pas empêcher la diffusion de l'Évangile, 16e mot sur la feuille. Il ne peut pas empêcher la diffusion de l'Évangile. Il ne peut pas empêcher l'extension de l'Église. Bien sûr, il va tout faire pour l'arrêter. Mais il ne peut pas l'empêcher. Il ne peut pas. Il est lié dans ce but précis, ne plus pouvoir empêcher la propagation de l'Évangile. Il ne peut pas. Et la deuxième réponse, et celle-ci, elle est plus générale, c'est quand on a un passage qui est difficile comme celui-ci, le réflexe que nous devons avoir, c'est de vérifier ailleurs dans la Bible si le langage est utilisé ici, est utilisé aussi ailleurs dans le même sens. C'est-à-dire, par exemple ici, est-ce que le langage est utilisé ailleurs pour décrire les effets de la première venue de Christ? Et la réponse est oui. Satan est lié. Est-ce que cela décrit réellement les effets, les conséquences de la première venue du Seigneur Jésus-Christ? Oui, Matthieu 12, verset 29. Jésus parlait de Satan. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme? Alors seulement il pillera sa maison. Quand le Seigneur parle ici de piller la maison de l'homme fort, il parle du salut des pécheurs, des âmes qui sont à présent sous la domination du diable. Et le terme est le même, le terme « lié ». Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? C'est exactement le même terme que nous avons en Apocalypse 20, verset 3. D'autres passages, en Jean 12 par exemple, le Seigneur parle de sa mort sur la croix qui approche. Et il dit au verset 31, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Il dit que l'effet de sa mort sur la croix sera que Satan sera jeté dehors. En Luc 10, Jésus parle de la chute de Satan. Rappelez-vous, quand les 70 reviennent d'avoir annoncé la bonne nouvelle, l'Évangile. Et en Luc 10, le Seigneur Jésus-Christ leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » L'Évangile est annoncé. Cela amène Satan à tomber du ciel, dit cet homme sur la feuille. Et cela correspond à la vision que nous avons déjà vue en Apocalypse 12, verset 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et les anges furent précipités avec lui. Quelle a été la conséquence ? Apocalypse 12, versets 10 et 11 nous disent que les croyants ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. À cause du sang de l'agneau. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous rappelle au chapitre 2, verset 14, que le Seigneur Jésus-Christ est devenu homme, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il rende impuissant. Les effets de la croix, c'est la destruction de Satan. Colossiens 2, verset 15, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix dépouille, 18e mot sur la feuille, la croix dépouille le diable. Tout ce langage, d'autres passages que vous pouvez trouver dans la parole, tout ce langage parle de retirer la puissance et l'autorité à Satan. Par la mort, la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, afin que l'Évangile se propage, afin que l'Église, qu'il y ait cette extension de l'Église dans le monde par le moyen du témoignage des croyants. Et certains vont dire, oui, mais Satan est encore à l'œuvre durant l'ère de l'Évangile. Et c'est vrai. Et aucune de ces affirmations que l'on vient de citer ne nie le fait que Satan œuvre encore aujourd'hui. Le Nouveau Testament affirme que, encore aujourd'hui, l'adversaire aveugle l'intelligence des croyants. 2 Corinthiens 4, verset 4. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, verset 8. Il agit maintenant dans les fils de la rébellion. Éphésiens 2, verset 2. Il supervise les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, Éphésiens 6, verset 12. Il reste un ennemi dangereux, il reste un ennemi actif. Et nous devons veiller, ne pas croire qu'il a été retiré de la scène de ce monde. Mais malgré cela, c'est une grande nouvelle pour l'Église. Quand on vient à l'œuvre missionnaire, quand on vient au témoignage, à la proclamation de l'Évangile, le langage est très simple. Satan est chassé. Satan est vaincu. Il est désarmé, 19e mot sur la feuille. Il est lié, il est dépouillé à cause de la mort, de la résurrection et de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout cela s'accorde avec ce passage d'Apocalypse 20, les versets 1 à 3. Tout cela est associé à la première venue du Seigneur Jésus-Christ et à l'annonce de l'Évangile dans le monde entier. Les 1000 ans symbolisent donc toute l'histoire de l'Église. Satan est lié afin qu'il ne séduise plus les nations et que l'Évangile soit répandu dans le monde entier. Et donc cela nous amène au troisième point, ce que cela veut dire. Et nous allons revenir donc à notre texte. Verset 1, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon. Et cela, ce langage est utilisé pour décrire la puissance souveraine de Dieu. 20e mot sur la feuille. La puissance souveraine de Dieu sur notre plus grand ennemi. L'ange apporte une chaîne que Satan, symboliquement encore une fois, que Satan ne peut pas briser. Il y a une clé pour verrouiller le tout. Satan est lié. Dieu est souverainement en contrôle. Le plan de Dieu pour le salut de tous les ennemis, de tous ses élus, pardon, doit être accompli et sera accompli parce que lui-même a lié l'adversaire. Et l'adversaire ne pourra pas empêcher ce plan d'être accompli. Et cela reste un adversaire quand même très dangereux. Et nous avons ici 4 titres qui sont donnés et qui révèlent pourquoi cet adversaire est coupable et pourquoi il doit être lié. Tout d'abord, le terme « dragon ». Rappelez-vous au chapitre 12, avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, le dragon voulait dévorer l'enfant et la femme. Et toute l'histoire de l'Ancien Testament nous montre cela. Toutes les manières dont Satan travaillait dans l'histoire. Rappelez-vous dans le livre d'Esther, Haman, qui voulait éradiquer le peuple juif. Hérode, qui a tué tous les enfants de Bethléem et de la région. Pharaon a essayé de faire la même chose en Égypte. Le dragon essayait de dévorer l'enfant. Mais l'enfant est venu. Alors, le dragon s'est tourné vers la femme, vers l'Église, et le chapitre 12 de l'Apocalypse souligne que l'enfant et la femme sont protégés, que le dragon ne peut pas les détruire, tout comme ici au chapitre 20. Satan est lié. Il est lié. Deuxième terme, le serpent ancien. Et ce langage devrait nous rappeler le passage en Genèse 3, où le serpent est entré dans le jardin d'Éden. Il a trompé les premiers parents de l'humanité, les amenés à l'incrédulité, à la désobéissance, au péché. C'est un serpent, mais qui est là depuis le début de l'humanité. Il est appelé aussi le diable, le grand adversaire du peuple de Dieu. Il est appelé Satan, c'est-à-dire celui qui accuse le peuple de Dieu, jour et nuit, devant Dieu. Mais Apocalypse 12, 10 nous dit qu'il a été précipité. Et Apocalypse 22 nous dit qu'il a été lié. Et qu'il ne peut pas empêcher l'Évangile d'être propagé. L'Église de grandir. Il ne peut pas. Mais notez quand même que d'après ce passage, l'enchaînement de Satan n'est pas permanent. 21e mot sur la feuille. Après ces 1000 ans, cette période, cette ère de l'Église, nous lisons verset 3, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et cela correspond avec tout ce que le Nouveau Testament nous dit. Nous avons lu tout à l'heure un passage dans 1 Thessaloniciens, mais Paul dans 2 Thessaloniciens écrit encore une fois, développe ce sujet. Il écrit à des croyants qui pensaient avoir manqué le retour de Christ. Mais Paul écrit qu'avant le retour de Christ, 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Satan sera délié pour un peu de temps. Et il y aura tellement de tromperies que le monde entier va se retrouver pour faire la guerre au Fils de Dieu et à ses armées. Et cette tromperie sera telle que s'il était possible, même les élus seraient séduits. Tellement la séduction sera grande. Satan sera délié pour un peu de temps après, à la fin de l'ère de l'Évangile, à la fin de ces 1000 ans. Et il œuvrera par la séduction et la tromperie. Nous verrons ça plus tard dans ce chapitre. Mais avec cette perspective amillénariste, nous, les croyants, nous avons une ressource inégalable. 22e mot sur la feuille. Bien sûr, nous ne voyons pas tous les événements de l'histoire en détail, mais nous avons le cours de l'histoire. Nous regardons vers le passé. Et nous voyons que la grande victoire définitive a été remportée à la croix. Le Seigneur Jésus a accompli la loi pour son peuple. Il a satisfait les exigences de Dieu. Il est mort pour détourner la colère de Dieu. Il est ressuscité pour donner la vie. Il est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu. Il est sur le trône et il règne. C'est lui qui ouvre les sceaux du livre de la volonté de Dieu. Et quoi qu'il arrive, nous regardons au passé. Et nous voyons que cette victoire a été remportée, que cette ère de l'Évangile, ces 1000 ans, cette ère est sécurisée par le Seigneur Jésus-Christ et par le fait que l'adversaire est lié. Mais nous connaissons l'avenir. À la fin, il y a une gloire éternelle pour ceux qui sont en Christ. Avant cela, il y aura une terrible rébellion finale. Il y aura une concentration de la tribulation. Est-ce qu'elle a commencé? On ne peut pas le dire. Mais Satan sera autorisé pour une courte période, à séduire, à tromper les nations, à persécuter l'Église dans le monde entier, à amener l'apostasie même au sein de l'Église. Des faux prophètes, des faux enseignants. Mais cela ne durera qu'un court moment. Puis le Seigneur reviendra dans la gloire. Nous connaissons le passé, nous regardons au passé, nous connaissons l'avenir et nous savons comment comprendre le présent, 23e mot sur la feuille. Ce passage nous invite à comprendre ce qui se passe dans le monde. Ce que cette vision nous dit donc, c'est que Satan est lié. Afin de ne pas pouvoir empêcher la propagation de l'Évangile et l'extension de l'Église, Christ règne et il y a une moisson qui se déroule maintenant, 24e sur la feuille. Il y a une moisson qui se passe maintenant. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition, qu'il n'y a pas de persécution, qu'il n'y a pas d'incrédulité. Si, il y en a. Mais cela veut dire que tout les élus sont appelés à la foi en Christ. Et nous vivons dans cette ère. Nous vivons dans ce millénium. Nous vivons dans cette période. Et avant de quitter le monde, le Seigneur Jésus-Christ a donné des instructions et il a souligné, en quelque sorte, la nature de ce millénium. Matthieu 28, versets 18 à 20. Il commence par dire « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » C'est lui qui règne. C'est lui qui dirige. Et puis il donne cette commission, cet ordre, ce commandement, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et l'Évangile est parti de ce petit groupe de disciples en Israël pour conquérir le monde par la prédication et le témoignage des croyants. L'Évangile est arrivé en Europe, est arrivé à Rome, et avec toutes les voies romaines, il s'est propagé dans toute l'Europe. Ensuite, il y a eu une période où on pensait que l'Évangile était perdu, avec le Moyen-Âge. Mais Dieu va amener la réforme protestante. Les réformateurs ont envoyé des colporteurs partout. Partout en Europe, dans le monde. Il y a eu l'Empire britannique, il y a eu l'Amérique. L'Évangile se répand. Satan ne peut pas l'empêcher. Satan ne peut pas l'empêcher. Et cette ère de l'Évangile, ces 1000 ans, durera jusqu'à ce que le dernier des élus, 25e mot sur Raphaël, jusqu'à ce que le dernier des élus sera appelé au salut par la foi en Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle, dit le Seigneur Jésus-Christ, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. Satan sera délié pour un court moment pour séduire les nations, amener la dernière bataille. Puis le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Il y aura le jugement final et la gloire éternelle pour son peuple. Question pour terminer. Si c'est ce qui se passe réellement dans l'histoire, quel est notre rôle? Certains sont effectivement appelés à prêcher l'Évangile à temps plein. D'autres sont missionnaires à l'étranger. Mais c'est toute l'Église. Toute l'Église qui est appelée non seulement à adorer Dieu, à grandir ensemble, mais aussi à être des témoins, à répandre cette bonne nouvelle. Quel est notre rôle? Comment est-ce qu'on peut être impliqué dans cette mission de l'Église, dans ce temps où il y a la moisson? Par la prière, 26e mot sur la feuille. Prier pour la prédication de la parole, que ce soit ici ou ailleurs. En utilisant les moyens que Dieu nous donne pour faire connaître ce message, cette bonne nouvelle. Priez pour les conversions, priez pour ceux que nous connaissons, pour ceux qui nous voient vivre. C'est pour ça qu'entre autres, nous nous retrouvons le mercredi soir. Mais si personnellement, individuellement, chacun chez soi, priez pour la proclamation, l'annonce de l'Évangile. Il y a aussi par notre participation, soit en allant sur place aider une œuvre missionnaire, soit par nos dons, 27e mot sur la feuille. Notre soutien, soutenir un ministère, soutenir l'annonce de la parole, de la bonne nouvelle par les livres, par la radio, par tout autre moyen que nous avons. Et il y a aussi par notre témoignage, 28e mot sur la feuille, notre annonce de l'Évangile. Que ce soit parmi nos contacts, parmi les membres de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, de vive voix, ou alors sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on met sur nos réseaux sociaux, sur notre page? Est-ce que nous avons un moyen là de pouvoir utiliser ces moyens pour annoncer, pour faire connaître, pour témoigner, pour annoncer l'Évangile? Qu'en est-il de Satan? Il est lié. Il est lié. Et les 1000 ans sont là pour que l'Évangile avance et touche tous les élus. Et ça, Satan ne peut pas l'empêcher. Ce plan-là, ce plan de Dieu, qui est parfait, va s'accomplir et s'accomplira de manière parfaite. Que Dieu donc nous accorde sa grâce pour comprendre sa parole, mais pour être aussi de vaillants héros de la foi, en proclamant sans peur la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ autour de nous, par tous les moyens que nous avons en notre possession. Que Dieu donc nous accorde sa grâce et que nous soyons cette lumière dans un monde de ténèbres. Amen.